Très à propos.
Bienvenue sur l'antenne de Radio Shalom Bourgogne, merci de nous rejoindre, le 97.1 FM. Évidemment, aujourd'hui, nouvel épisode de l'émission Très à propos, mené par Alain David, bonjour.
Bonjour Elie, merci aux auditeurs, merci à vous de m'accueillir, merci à Radio Shalom de m'accueillir, bien sûr.
On va revenir sur une conférence qui a été organisée par la LICRA le 27 novembre dernier, conférence intitulée « Malaise dans la démocratie ». Vous en avez fait la présentation et puis étaient présents Didier Lesky, directeur général de l'OFI, Robert Hirsch, militant du RAR, historien, et puis Gérard Bensoussan, philosophe, trois personnages qu'on a déjà eu la chance d'en entendre parler sur l'antenne de Radio Shalom. Ben, je vous laisse Alain peut-être faire la présentation, replanter le décor de cette conférence.
Oui, alors c'est pas véritablement une conférence, oui, c'est plutôt un débat, table ronde, oui, puisque table ronde. Les orateurs se sont exprimés chacun pendant un premier tour de chauffe, pendant un quart d'heure à peu près. Donc, c'était effectivement trois prises de parole, chacun parlant à partir de son expérience, de son travail. Alors moi, ce que je vais faire là, ce que je me propose de faire devant les auditeurs, c'est de reprendre, pour resituer le décor, de reprendre l'exposé liminaire que j'avais fait dans un premier temps. Et puis ensuite, on va pouvoir échanger là-dessus et essayer de tirer la substantifique moelle de ce qui s'est passé. Alors, « Malaise dans la démocratie », ce titre semble en un sens évident par lui-même. La démocratie ne va pas bien. Elle ne va pas bien en France, avec une vie parlementaire qui prend chaque jour un peu plus l'allure d'un psychodrame, avec la perspective d'élections présidentielles dont le résultat d'ores et déjà affiché par les sondages, ouvre cependant la porte à une période de grande incertitude. Elle ne va pas bien avec les menaces extérieures, des amours quant aux institutions un peu partout en Europe. Elle ne va pas bien aussi parce que la guerre, irreprésentable, est cependant à notre porte et a cessé d'être une réalité théorique et improbable. Elle ne va pas bien encore parce que le 7 octobre, événement lui aussi irreprésentable et qui fait que le sort de 10 millions d'Israéliens, d'une quinzaine de millions de Juifs, qui représentent moins, je le rappelle, moins de 0,2% de la population mondiale, de quelques 12 millions de Palestiniens, pèse de façon incertaine, mais incroyablement réelle, sur le destin de la planète et nous rejoint étrangement avec un peu partout et en particulier au cœur de nos démocraties, le surgissement inidentifiable, inassignable et incompréhensible de l'antisémitisme. Éternellement nouveau, disait Lénine, en une formule que je dois à Gérard Bensoussan, éternellement nouveau, l'antisémitisme. Tout cela se passe entre tragédie et comédie. Comediante et tragediante, tragédie pour les peuples qui, cependant, au moins dans les démocraties européennes, ne parviennent pas à prendre la mesure de ce qui arrive et se perdent en de risibles gesticulations. D'où l'expression de malaise que j'ai volé au célèbre essai de Freud de 1929, « Malaise dans la civilisation, Unbehagen in der Kultur », malaise, et non pas crise, car à une crise, on associe des certitudes, voire une issue. Je pense ici au petit livre de Delphine Horviller, d'après le 7 octobre, « Comment ça va pas ?», par lequel elle a voulu, mais voulu quoi et comment le dire ? Réagir, elle a voulu réagir, faire suite, enchaîner sur l'événement. Mais justement, il n'y a pas d'enchaînement possible, pas de suite. Comment ça va, demande-t-on avec à l'arrière-plan, hein, ça va bien, par-delà tous les ça ne va pas. Parce que, comme le dit une comptine de Jean Tardieu, comment ça va sur la terre, ça va bien. Et pourtant, la vérité est déployée dans le livre de Delphine Horviller est que ça ne va pas, ou plutôt prononcé par Horwiller de façon familière, et pas simplement et seulement familière, ça va pas, ça va pas. Comme si la grammaire, toujours au service de l'ordre et de l'ordonnancement d'un monde où ça s'arrange toujours, ne laissait pas ici la négation se retourner en une positivité finale. Ça va pas, donc. Drôle de formule quand on y pense, que livre le français et dont je m'aperçois avec un peu d'étonnement qu'elle ne se laisse pas traduire facilement dans d'autres langues, en allemand ou en anglais, pour rester dans mon faible domaine de compétences. Des langues où la rectitude grammaticale est immédiate et implacable. En allemand, das geht nicht. En anglais, it does not go, it does not work. Ces langues ne permettant pas de rendre tout à fait le « ça va pas » d'Horwiller. En revanche, si on se fixe un instant sur l'allemand, le « un » allemand, dans l'expression « malaise dans la civilisation » de Freud, « unbehagen in der Kultur », le « un » n'est pas à son tour la négation ordinaire, mais fait paraître comme malaise un mot sans la contrepartie d'un horizon de positivité. Je me suis arrêté là dans la réflexion, sans savoir à ce moment-là tout à fait si Didier Lesky, haut fonctionnaire directeur de l'OFI, l'Office français à l'immigration et l'intégration, et peut-être à ce titre en charge pour la France d'une expression d'un malaise associé à la présence de l'étranger et sur quoi surfe, comme on le sait, le Rassemblement national, et de plus, surfe également de plus un peu partout tous les mouvements dits populistes. Si Robert Hirsch, historien et, si j'ose dire, praticien de la gauche, c'est-à-dire d'une espérance politique foncière pour l'humanité, mais espérance rendue en quelque façon moins certaine par l'étrange rencontre entre la gauche et cette situation humaine qui vient l'indécider, les Juifs, mot auquel j'associe de forts guillemets pour dire encore l'indécidabilité de ce terme. Si Gérard Bensussan, enfin, professeur émérite à l'Université de Strasbourg, philosophe, qui a derrière lui une œuvre considérable dont l'essentiel a été consacré à déchiffrer les textes les plus profonds de la pensée de l'idéalisme allemand et de son héritage, dont bien sûr Marx, mais aussi d'insolites penseurs qui, ayant fait de la question juive le centre de leur œuvre, Franz Rosenzweig, Emmanuel Levinas, Maurice Blanchot, Jacques Derrida, soient d'incontournables éléments de notre modernité, ne sachant pas, disais-je, si les uns et les autres vont, ou en tout cas comment ils vont dire, au titre de leur expérience de réflexion et de vie, avec nous tous, avec tous les présents de cette table ronde, comment ça va pas, comment entendre le malaise. Voilà donc l'exposé liminaire que je faisais à ce moment-là, ne sachant pas exactement ce qui allait se dire. Alors je vais renverser les rôles un instant, c'est-à-dire c'est moi qui vais vous questionner, Élie, et vous demander, puisque vous étiez présent, comment, non pas en témoin candide, parce que je sais que vous êtes très averti, mais comment en témoin de bonne foi, vous avez perçu les choses, bien, mal, dites voir quelques mots là-dessus.
Plutôt bien perçu, je ne sais pas s'il y avait du bien, du mal, mais en tout cas, j'ai trouvé que les exposés des trois orateurs étaient particulièrement précis et chacun en plus avait son histoire d'un lien assez profond avec ce qu'on appelle la gauche. J'ai senti quand même des personnes un peu désabusées, si c'est pour pas dire plus, mais ça ouvre quand même des questions et moi, c'est toujours un peu ça m'amène à un questionnement, c'est comment faire pour soulager ce malaise particulièrement tenace au sein de certains milieux universitaires et militants, mais aussi au-delà. C'est un peu ça qu'on en retient aussi, avec ce matraquage permanent autour de l'accusation de sionisme, et on sait très bien ce que ça veut dire derrière. C'est ce que j'ai retenu aussi. Pas mal d'émotions de la part, justement, de ces trois orateurs, et en particulier quand on vient de ce monde où on a eu pas mal de rêves, ou en tout cas d'idées fraternelles qui n'existent malheureusement plus. On l'a vu récemment avec des sorties de professeurs d'université particulièrement malfaisants et malfaisantes. Mais ça ouvre quand même un peu d'espoir, puisque si ce genre de table ronde existe, c'est que peut-être qu'on peut réaménager des espaces de discussion et peut-être persuader, c'est pas le mot, mais essayer de faire revenir les gens un peu à la raison. C'est un peu comme ça que je l'ai perçu, mais quand même un constat dramatique.
Oui, alors bon, merci de cette impression. D'abord, effectivement, moi, dans les différents échos que j'ai eus, j'en ai eu quand même un certain nombre, c'était effectivement positif de la part de tout le monde. J'ai pas eu de retour négatif, ce qui peut arriver d'ailleurs, même pour un événement, un très bon événement, il peut arriver, ou il arrive aussi que des gens soient déçus, ne trouvent pas là quelque chose qui ait correspondu à leurs attentes ou n'ait pas compris un certain nombre de choses. Là, j'ai eu d'une façon générale des retours positifs. Mais alors, je reviens sur ce que vous disiez quant à la déception que les uns et les autres éprouvaient. Alors, je vais dire pour les auditeurs qui n'étaient pas à la table ronde que les trois personnes figuraient un peu comme trois vieux mâles blancs, si j'ose dire, enfin avec un peu d'irrévérence, je le dis parce qu'ils sont pas là, mais ils avaient tous passé la soixantaine, disons, pour être pudiques. Ils avaient tous passé la soixantaine, et alors ce qui est apparu aussi, ça c'était un moment peut-être un peu humoristique ou comique de la soirée. À un moment donné, ils en sont venus à faire leur coming out d'anciens combattants de l'extrême gauche.
Oui, puis quand je dis de gauche, c'est une gauche assez radicale en plus.
Oui, alors il y en a deux qui venaient de la Ligue communiste révolutionnaire.
Voilà, le NPA
il y avait Didier Lesky et Robert Hirsch. Bon, les deux d'ailleurs disant, mais moi, et notamment Didier Lesky, je dis pour Didier Lesky parce qu'il est haut fonctionnaire, donc plus engagé ou plus inscrit dans le champ gouvernemental par la force des choses, mais il dit, moi je suis toujours de gauche. Je suis de gauche, cette extrême gauche que je confesse maintenant, que devant vous, en quelque sorte, je le fais parler de cette manière-là, cette extrême gauche que je confesse devant vous, c'est toujours la mienne. Et en quelque sorte, c'est les autres qui ont changé, c'est pas moi. C'est les autres. Alors, il faudrait qu'on arrive à dire effectivement qu'est-ce qui a changé à ce moment-là. De la LCR, Robert Hirsch, la LCR, et Gérard Bensussan, alors c'est encore plus surprenant, tout d'un coup confessant un passé maoïste. Nous sommes vraiment dans les extravagances. Enfin, on avait là nos trois anciens combattants de l'extrême gauche. Faut-il dire qu'avec l'âge, ils se sont assagis et qu'ils ont acquis une vision bourgeoise de la réalité? Je crois que ce serait injuste parce que d'abord, ils le démentent. Défendent. Ils le démentent. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est la différence? Qu'est-ce qu'ils disent là-dessus? Voilà, je crois que c'était un point qui était passionnant dans leur prise de parole. Je reprends un mot que j'ai aventuré. J'ai dit, à propos de Robert Hirsch, j'ai dit un praticien de la gauche, puisque lui appartient et se réclame d'un petit mouvement dans lequel il milite toujours, qui est le réseau d'action contre l'antisémitisme et tous les racismes, un réseau de gens qui viennent de l'extrême gauche ou qui se situent eux-mêmes toujours à l'extrême gauche, mais avec l'optique, la perspective, ce qui est assez inédit, de prendre en charge la question de l'antisémitisme et notamment de l'antisémitisme à gauche. Alors ça, c'est un point tout à fait singulier, mais derrière cette expression que j'ai aventurée, et d'ailleurs qui lui a plu, enfin, il a réagi très sensiblement, très positivement à cette expression, j'ai ajouté un praticien de l'espérance. Pas seulement un praticien de la gauche, mais un praticien de la gauche au sens où la gauche, c'est l'expression où voudrait, dans l'idéal, être une façon de se tourner vers ce qui représente pour l'humanité, dans l'histoire de l'humanité, une espérance. Alors, c'est ça que les uns et les autres se sont reconnus dans cette idée d'être des praticiens de l'espérance. Et alors, je pense, mais vous me direz, n'hésitez pas à donner votre sentiment aussi, j'essaye de le donner pour les auditeurs, ce que moi j'ai perçu, les uns, et en particulier dans la prise de parole de Didier Leschi, c'était très net. Il a fait état d'une déception globale quant à l'espérance. La gauche aujourd'hui, ou ce qui se réclame de la gauche, se replie sur des entités, alors c'est vrai notamment pour ce qu'on appelle le wokisme, des entités toutes faites, sacralisées, sacralisantes, des appartenances.
Des assignations à domicile ou à...
Assignations, voilà, à un groupe, à un genre, à une race, ou fut-elle la race dans laquelle vous enferment les autres, les groupes racisés. Alors, c'est pas nécessairement qu'on admet la pertinence de la race noire, mais puisque les autres me regardent ou sont censés me regarder comme noir, alors je me définis dans cette appartenance-là. Mais du coup, et c'était l'analyse en particulier très forte, très impressionnante pour moi, de Didier Leschi, que de dire ce retour sur une appartenance, cet enfermement dans une appartenance. Alors vous dites, je trouve très justement, l'expression est forte, me semble-t-il, assignation à résidence, c'est l'occultation de l'ouverture à un extérieur, à un dehors, c'est-à-dire de tout ce qu'incarne l'espérance.
L'espérance que doit porter une certaine gauche, en tout cas, enfin, qui normalement, je ne sais pas s'il y a une norme, mais qui en tout cas est censée porter dans son bagage et dans son discours. Malheureusement, là, on voit qu'effectivement, il y a eu des dérives, mais justement, ça, je trouve que le résultat fait qu'on peut y croire, parce que je pense qu'on pourra, on peut ouvrir des espaces de débat, et cela me semble important. Pas laisser les choses s'envenimer et s'empirer, c'est mon inquiétude, mais en tout cas, cette table ronde m'a donné de l'espoir.
Je donne la parole un instant au philosophe à propos du mot espérance. On ne peut pas passer à pieds joints par-dessus une certaine résonance culturelle du mot espérance. Alors, je rappelle pour ceux qui ont quelques souvenirs de leur classe de terminale, éventuellement en philosophie, les questions kantiennes, les questions par lesquelles Kant définissait sa pensée. Kant, le grand penseur qui ouvre à notre modernité, en 1781, il écrit son grand livre « La critique de la raison pure » et il définit son œuvre par trois questions. Que puis-je savoir? Que dois-je faire? Et la troisième question, que m'est-il permis d'espérer? Que m'est-il permis d'espérer? Et voilà l'espérance qui s'introduit pas simplement comme un sentiment psychologique un peu vague, mais comme, au fond, une définition fondamentale de la pensée et de ce que nous sommes dans, au cœur de l'œuvre de celui qui, certainement, est l'un des plus grands penseurs de tous les temps, et en tout cas, un penseur qui nous permet de penser ce que nous sommes, même si nous n'avons jamais ouvert un livre de Kant, même si nous n'avions jamais entendu parler d'Emmanuel Kant, nous sommes marqués dans nos pratiques les plus quotidiennes, nous sommes marqués par cette pensée. Que m'est-il permis d'espérer ? Et puis, autre référence, alors cette fois-ci très française, encore que c'est un Français qui ait été pétri lui aussi de cette culture kantienne, allemande, kantienne en tout cas, Charles Péguy. Charles Péguy, dont l'un des grands livres s'intitule « Le porche du mystère de la deuxième vertu ». Alors qu'est-ce que ça veut dire ça, la deuxième vertu ? Ben, vous savez, ceux qui ont eu un enseignement religieux catholique ou protestant, se rappelle que les trois vertus théologales sont la foi, l'espérance et la charité. Et la deuxième vertu, c'est l'espérance. Et Péguy fait dire, je n'ai pas pris le texte, mais de mémoire, fait dire à Dieu, voilà ce qui m'étonne, dit Dieu, c'est l'espérance. L'espérance, voilà ce qui m'étonne, dit Dieu. L'espérance, voilà ce qui m'étonne. Et puis, aussi, je mentionne, pour enfoncer le clou, ce clou-là, l'œuvre de toute une école marxienne, je ne dis pas marxiste, mais marxienne en Allemagne, un marxisme utopique qui se définit lui-même par l'utopie, celle en particulier d'un des grands penseurs de notre temps, bien que même s'il est moins connu en France, qui s'appelle Ernst Bloch. Ernst Bloch, qui écrit, dont l'un des grands livres, c'est Le principe espérance. Principe Hoffnung, le principe espérance. Alors, vous voyez, ce que je veux dire, ce sur quoi je vais mettre l'accent ici, c'est que l'espérance n'est pas simplement un sentiment que l'on peut professer lorsqu'on est un peu utopique ou lorsqu'on est optimiste, disons. Les optimistes pratiqueraient ou s'ouvriraient à l'espérance, tandis que les pessimistes, ce serait le contraire. D'ailleurs, en parlant, il me vient aussi un autre titre d'un des grands penseurs qui a influencé notre époque. C'est un penseur du 19e siècle, cette fois-ci, Kierkegaard, qui lui écrit un traité du désespoir. Pas un traité de l'espérance, mais un traité du désespoir. Mais il y a un rapport profond entre, évidemment, le désespoir et l'espérance. Alors, qu'est-ce que c'est que l'espérance dans cette perspective ? C'est l'ouverture du temps, l'ouverture à l'altérité, l'ouverture, non pas l'enfermement sur un présent, sur ce qu'on possède, mais sur l'inédit, sur l'imprévisible, sur l'irreprésentable, mais qui porte, qui anime notre sens de l'humanité. C'est l'ouverture aussi à l'autre que je ne suis pas. Voilà ce qui peut définir permettre d'entendre ce qui se joue avec l'espérance. Alors, je dis ceci, ce qui me permet de passer à un autre aspect de la table ronde qui était surprenant quand même, qui paraissait un peu particulier, un point particulier, c'est la question de l'antisémitisme. Dans mon propos liminaire, j'ai voulu inscrire ce malaise dans le sillage de ce qui s'est passé le 7 octobre 2023, dans l'événement du 7 octobre 2023, avec ce que cet événement a déclenché. Alors, au-delà des faits, on pourra on pourrait, mais chacun a ça en tête, décliner le nombre impressionnant d'incidents antisémites, ne serait-ce qu'en France, mais dans le monde, d'une façon générale, d'une façon plus générale. Mais là, on est au niveau du factuel. Mais qu'est-ce qui se passe là ? Qu'est-ce qui se passe quant à l'expression de ce malaise dont je parlais, de ce malaise qui habite au cœur de notre rapport à, du rapport à notre présent, c'est-à-dire au cœur aussi de ce que nous appelons la démocratie. Et ce qui se passe derrière, autrement dit, qu'est-ce qui se passe avec l'antisémitisme ? Il y a, je dirais, pour essayer de faire le lien avec ce qu'on disait sur, sur la question de l'espérance, c'est la question juive. Mais la question juive qui n'est pas simplement la question des juifs, d'un groupe particulier. Je, dans le liminaire, je rappelais qu'il y a une quinzaine de millions de juifs dans le monde, c'est-à-dire moins de 0,2% de la population mondiale. La question juive est beaucoup plus prégnante, beaucoup plus importante que ces 15 millions. La question de l'antisémitisme notamment, mais derrière la question de l'antisémitisme, c'est de la question juive qui s'agit. Alors, je disais à propos de l'espérance, c'est l'ouverture à l'altérité. Eh bien, c'est ça qui est en cause avec la question juive. Je reprendrai une expression ou une définition d'Emmanuel Lévinas pour le dire. Le judaïsme, c'est l'humanité au bord de la morale sans institution. C'est-à-dire que le judaïsme, c'est que l'on soit sans institution, ça veut dire, j'y insiste, lui y insistait, ça veut dire que l'on soit juif ou pas, que l'on se réclame d'une religion, de la religion juive ou pas, que l'on se réclame d'une culture juive ou pas, d'une tradition ou pas. Cette question que porte en Occident le judaïsme, c'est celle de l'altérité, c'est celle de la morale, c'est celle de l'altérité. Et ce qui se passe avec l'antisémitisme, c'est certainement le déni, la dénégation quant à cette ouverture à l'extérieur, au dehors, quant à cette question de l'espérance.
Le déni de l'autre et de ce qu'il est, ou ce qu'il représente.
Et le déni de ce qu'il est,
ou ce qu'il renvoie, ou ce qu'il renvoie, ou ce qu'il va, est-ce que l'autre me renvoie aussi de
oui,
ça.
Mais cette imprévisibilité, cette irreprésentabilité de l'autre. Je ne sais pas ce qu'il est. L'altérité, c'est justement que je ne sais pas ce qu'est l'autre. À partir du moment où je saurais ce qu'il est, il perdrait son altérité, d'ailleurs. C'est vrai, si vous voulez, je pense, dans un couple. Le moment où je sais qui est mon partenaire, qui est mon... mais je la connais par cœur, ou je le connais par cœur, à ce moment-là, on peut dire qu'il y a quelque chose d'atteint, de détruit dans la relation à l'autre. L'autre, c'est toujours cette part indépassable de secret. L'autre, c'est le secret que je porte en moi, et le secret que je ne connais pas. Qui est tellement secret que je ne peux pas le connaître, que je ne le connais pas. Je sais peut-être qu'il y a un secret, mais je ne sais pas quel est le secret. Et je vis avec ce secret. Alors c'est cette dimension d'altérité sur laquelle Didier Leschi a formidablement insisté à la table ronde. C'est cette dimension de secret, d'altérité, qui trouve ou qui se prononce dans les termes du judaïsme, et en particulier lorsque le judaïsme donne lieu, ou la question juive donne lieu à l'antisémitisme. Alors, qui est juif pour l'antisémite ? Vous voyez, la question est très vaste, parce que si je reprends le code vulgaire de l'antisémitisme, les juifs sont partout. Et si un tel ou tel ou tel ou tel n'est pas juif, il y a de fortes chances pour qu'il soit enjuivé, sous influence. C'est-à-dire le judaïsme est partout. Dans le souci de protection contre cette prolifération du judaïsme, eh bien, je m'enferme, je dresse des murailles, je m'enferme dans ce que je suis, ou dans ce que je crois être, c'est-à-dire dans un identitarisme forcené.
Et puis ce qui est pernicieux aussi dans le moment qu'on vit présentement, c'est justement ce mot judaïsme ou juif qui est remplacé par sioniste ou israélien. On est tout à fait là-dedans. On est tout à fait là-dedans puisque ça englobe tout le monde, enfin tout et n'importe quoi, et ça permet, du coup, c'est un peu un mot valise finalement pour cracher sa haine. C'est une facilité de se cacher derrière.
C'est là que le mot de Lénine me paraît, que citait Bensussan, me paraît formidable. Éternellement nouveau, l'antisémitisme. Éternellement nouveau, c'est-à-dire qu'il prend des faces toujours nouvelles, toujours inédites. Et en particulier, puisque la mode, mais ce n'est pas seulement une mode, est aujourd'hui aux sciences sociales, les sciences sociales n'en disent rien, ne peuvent rien en dire, puisqu'ils n'ont pas rapport à la nouveauté. Ils conceptualisent et ils introduisent des connaissances vraies ou supposées, mais ils n'ont pas rapport à, ils laissent échapper la question de la nouveauté comme telle. Éternellement nouveau, l'antisémitisme. Je voudrais introduire encore un élément dont on n'a pas parlé au moment de la table ronde, mais qui traverse notre présent et qui traverse l'expression, qui contribue à l'expression du malaise. Aujourd'hui, l'un des aspects du malaise, c'est la guerre que mène, la guerre dite hybride, mais elle n'est pas que hybride, hein, pour les Ukrainiens, elle est tout sauf hybride, elle est très brutale, elle est très violente, elle est épouvantable, que mène la Russie. Hein. L'un des noms que la Russie donne à cette guerre, et dans ses aspects hybrides en particulier, alors où la multiplicité des noms, c'est l'OTAN, c'est l'Ukraine, c'est la nazification de l'Ukraine, dans la nazification de l'Ukraine, on ne peut pas éviter de soulever le problème du rapport à l'antisémitisme, hein, puisque l'une des faces saillantes, l'une des expressions saillantes de cette hostilité de la Russie à l'Ukraine, c'est la personnalité de son président, Volodymyr Zelensky, dont Lavrov, le ministre des Affaires étrangères de Poutine, avait pu dire « Ah mais vous m'opposez, vous m'objectez que Zelensky est juif, et alors Hitler était juif, et Hitler avait du sang juif également. »
Moi, je me souviens.
Alors, éternellement nouveau, l'antisémitisme. Hein. Éternellement nouveau, quand on arrive à de telles extravagances, il y a quelque chose qui se passe là. Parce que Lavrov n'est pas un imbécile, n'est pas un homme inculte, il est très au fait de la réalité occidentale, et voilà qu'il peut arriver à dire « mais Hitler avait du sang juif ». C'est-à-dire que là, on a quelque chose qui dépasse la simple raison. Donc, l'Occident, l'un des noms de ce malaise, c'est l'Occident, et l'Occident, c'est-à-dire en particulier l'Europe.
Et on voit bien, l'Europe de l'Ouest, enfin, particulièrement.
L'Europe, mais on voit bien aussi avec la tournure de la politique internationale sous l'influence de Trump, on voit bien que c'est de l'Europe qu'il s'agit. Alors, qu'est-ce qu'on entend par l'Europe ? Alors, vous dites là, vous venez de dire, Élie, l'Europe de l'Ouest. Sûrement, mais oui, en même temps, je voudrais dire quelque chose de plus. Enfin, quelque chose, cette fois-ci, de plus philosophique, encore une fois. C'est-à-dire, ne pas prendre l'Europe au niveau de son histoire.
Oui, ou sa géographie.
Ou de sa géographie, oui. Bien sûr. C'est bien davantage qu'une excroissance du continent asiatique, l'Europe.
Bien sûr. Hein,
un petit bout de terre au bout du continent asiatique. L'Europe, alors je vais aller chercher un penseur qui a été l'un des très grands penseurs du XXe siècle, Edmund Husserl, qui a été le maître de Lévinas en particulier. Qui est créateur, le fondateur d'un courant de pensée qui a bouleversé la pensée du XXe siècle, qu'on appelle la phénoménologie. Alors, je laisse de côté ce qu'est techniquement la phénoménologie. C'est pas peut-être qu'un jour on pourra faire une émission là-dessus, mais ça prendra une autre dimension. Mais laissons de côté ce qu'est techniquement parlant. Dans le jargon de la philosophie, la phénoménologie. Mais ce que Husserl dit dans une conférence qu'il a faite à la fin de sa vie en 1935 à Vienne, à une époque où le nazisme était là, où Husserl, qui était d'origine juive, comme on disait, mais là, ça veut dire pratiquement que Husserl était un juif converti au protestantisme, bon, pour des raisons d'époque, des raisons
comme
de
beaucoup
carrière,
en Allemagne, comme beaucoup de gens en Allemagne.
Oui, comme beaucoup d'Allemands, de gens se convertissaient simplement pour mieux s'insérer dans la société. Enfin, il n'avait pas une conviction protestante très prononcée non plus. Ni une conviction juive, d'ailleurs. Enfin, il n'était pas... c'était pas un homme de religion. Et en 1935, donc il était à la retraite et il mourra 3 ans après, en 38, destitué par les nazis de toutes ses fonctions. Il va faire une conférence à Vienne. Vienne qui n'était pas encore... territoire du Reich. Hein, elle deviendra en 1938 avec l'Anschluss, territoire du Reich. Mais en 1935, donc, il va faire une conférence à Vienne, en Autriche. Cette conférence s'intitule « La crise de l'humanité européenne et la philosophie ». Alors, qu'est-ce qu'il dit là-dedans ? Eh bien, il dit une chose très, très sidérante. Il dit que l'Europe, justement, n'est pas simplement un bout du continent asiatique, un morceau de géographie, n'est pas simplement une certaine, un certain résultat d'une histoire culturelle et politique dont on peut effectivement faire l'inventaire, dont les historiens font l'inventaire. L'Europe, c'est un nom de l'humanité. Un nom de l'humanité qui a commencé très tôt, avec les Grecs.
Oui, en Grèce, c'est vrai. Et Rome.
L'humanité est grecque. Alors, grec, ça veut dire quoi, en l'occurrence ? Pas simplement non plus un certain nombre de personnages culturels que la culture, que l'histoire nous donne à connaître, mais ça veut dire, tout d'un coup, un intérêt pour la vérité. La question de la vérité, mettons chez Platon ou d'autres, devient le nom de l'humanité. À telle enseigne que le mot grec qui veut dire langage, logos, c'est le mot logos, veut dire en même temps la raison. Et la raison humaine, c'est le langage qui est animé par la question de la vérité. Et ça définit l'humanité, ce rapport à la question de la vérité. Et puis, cette situation, cette nouvelle définition de l'humanité, définie par son souci de la vérité, par les mathématiques, si on veut, dit Platon, cette humanité définie par le souci de la vérité, ben, elle peut perdre son identité, c'est-à-dire retomber dans la... Alors le contraire de la civilisation, pour les Grecs, ça s'appelle la barbarie. Le contraire du logos, le contraire de la raison, c'est la barbarie. Barbare, c'est un mot qui exprime un borborigme, hein. Littéralement parlant, c'est un mot qui exprime un borborigme, c'est-à-dire des bruits de bouche qui ne correspondent à aucun sens. Le sens, c'est celui qui est animé par la raison et par le souci de la vérité. Alors, voilà, l'humanité peut retomber dans la barbarie, c'est-à-dire perdre cette orientation, cette préoccupation pour la vérité.
Parce qu'on ne sait plus ce qui est vrai ou ce qui est faux, notamment à travers un personnage comme Donald Trump, qui s'en fiche complètement de ce qui est vrai, ce qui est faux, tant que ça peut lui servir ou servir ses intérêts ou l'intérêt de ses amis.
Exactement, les vérités alternatives, c'est justement, ce n'est plus la question de la vérité. Hein, on n'est pas libre de dire que 2 et 3 font 6. On peut toujours le dire, mais précisément, les nombres, les lois mathématiques imposent leurs exigences internes. On peut toujours dire n'importe quoi, mais il y a une exigence intérieure qui fait qu'on n'est pas libre de le dire. Et cette nécessité intérieure, c'est ce qui définit l'humanité. L'humanité comme dans son origine grecque. Grec, ça veut dire, en l'occurrence, vous pouvez être asiatique, vous pouvez être toutes sortes de choses, japonais, vous pouvez être tout ce que vous voudrez, mais dans la mesure où vous êtes défini par cette préoccupation pour la vérité, vous êtes grec. Mmh. Et la prise en charge de cette identité grecque, c'est ce qui définit l'Europe, avec la possibilité de la perdre. L'Europe, c'est la prise en charge de cette origine grecque, de cette orientation vers la vérité, avec toujours en perspective la possibilité de perdre tout ça.
Et avec ce que représente l'Europe actuellement dans le monde, c'est-à-dire une certaine idée de la liberté qui n'existe pas ailleurs, voilà. À cause des dirigeants, quels qu'ils soient.
Alors, qui n'existe pas ailleurs.
Il n'existe pas dans certains endroits, plutôt.
Et qui n'existe potentiellement pas aussi en Europe.
Oui, bien sûr, en Europe.
C'est toujours la question de la retomber dans la barbarie. L'Europe n'est pas géographique. Non. L'Europe, c'est une idée de l'humanité.
Bien sûr.
Alors, on a fait des reproches à ce texte de Husserl, et notamment au moment, dans les années 60, même si il n'était pas très connu, mais dans les années 50-60, c'est-à-dire au moment de la décolonisation, on a parlé d'ethnocentrisme. Voilà, si l'humanité est européenne, et alors les autres, et les autres cultures, qu'est-ce que vous en faites ?
Bien sûr.
Et Lévinas, qui élève de Husserl, s'il en est, il n'y avait pas de séminaire de Lévinas qui ne porta sur Husserl, on avait moi qui les ai fréquentés, c'était extrêmement austère de ce point de vue-là, parce qu'ils nous donnaient toujours des cours, des textes de Husserl à commenter. Au début de chaque séminaire, il y avait un petit psychodrame, c'est-à-dire ils distribuaient les textes et tout le monde regardait ses chaussures en essayant d'échapper à l'attribution d'un texte. Alors ils se fâchaient, alors on prenait le texte parce qu'il nous donnait toujours, il insistait toujours sur la nécessité de commenter des textes de Husserl. Mais précisément, il répond à l'objection de l'ethnocentrisme au moment où elle apparaît, c'est-à-dire dans les années 50-60, avec un petit livre que j'ai apporté là, L'humanisme de l'autre homme. Il s'intitule L'humanisme de l'autre homme. Il est en collection de poche. Alors, ce n'est pas un livre facile. Hein, c'est un petit livre, ce n'est pas un livre facile, mais c'est un livre qui, par rapport à Husserl, complète en quelque sorte le texte de Husserl en introduisant au cœur de la nécessité qui définit l'Europe la question de l'altérité. En quelque sorte, l'objection qui était, oui, mais les autres cultures, elles ont droit à leur dignité, elles ont droit de revendiquer elles aussi leur dignité, leur signification propre, leur vérité. Et la réponse de Lévinas est alors celle-ci. Évidemment, je résume en une phrase. La réponse de Lévinas est celle-ci. La revendication de la dignité pour une culture particulière, c'est justement cela qui définit l'Europe, c'est-à-dire la revendication de la dignité. Autrement dit, au cœur du souci pour la vérité, il y a la question de l'altérité, il y a la question du rapport à l'altérité. Et je terminerai donc, si vous voulez, cette séance par une citation de Lévinas que je trouve formidable et qui résume exactement ce que je viens de dire. La sarabande des cultures innombrables est équivalente. Chacune se justifiant dans son propre contexte, crée un monde certes désoccidentalisé, il écrit désoccidentalisé avec un tiret, désoccidentalisé, mais aussi un monde désorienté, en jouant sur le mot orientation. La sarabande des cultures innombrables et équivalentes, chacune se justifiant dans son propre contexte, crée un monde certes désoccidentalisé, mais aussi un monde désorienté. Voilà à la fois l'expression du malaise, un monde désorienté, mais aussi la réponse à tout ce qui nous assaille aujourd'hui, la question de l'Europe, au sens où l'Europe signifie pour l'humanité le rapport à l'altérité, l'espérance dont nous ont parlé nos trois conférenciers du 27 novembre.
Merci Alain David. Je rappelle justement ces trois conférenciers de la table ronde organisée par la LICRA, Malaise dans la démocratie. À très bientôt.
Merci à vous et merci de m'avoir reçu.
Très à propos.